avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Après une super émission hier, on s'est régalé, mon cher Philippe, aussi grâce à vous. Nous étions en direct du Salon de l'Agriculture. Donc voilà, donc maintenant la bonne cochonaille, le fromage, les grands vins, on s'est régalé.
Vous les bonnes odeurs.
Et les bonnes odeurs, comme vous dites. Ouais, d'ailleurs, il y a le mouton et la vache qui vous embrassent, Philippe.
C'est gentil.
Si tu le vois demain, tu l'embrasses.
Et le cochon, j'ai merci.
Et vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Avignon sur 95.2. Et on peut se retrouver bien sûr sur la page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec les Bordeaux. Mais alors, Bordeaux Côte de France, on verra ce que c'est. On parlera du sucre et du vin. Et puis, un plat de saison préparé par le chef Romain Boiroux. On va se régaler. On verra quel type de vin il faut associer. À mes côtés, Hélène Pio, ainsi que Philippe Forbach et David Cobold. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Hélène, Invino sur Radio retrouve maintenant vous, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, pour parler du whisky français que le monde entier nous envie. Belle voix.
Oui, absolument. Et c'est un whisky qui rend heureux, je suppose, puisque nous recevons Guillaume Mastelotto, le directeur commercial de l'entreprise Les Bienheureux, qui est à l'origine de ce whisky. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Donc racontez-nous d'abord. Allez, on va commencer par
Hélène, vous pouvez refaire bonjour.
Ouais, là il y a le côté hôtesse bonjour, de l'air. Guillaume. Alors c'est pas parce qu'il est mignon Guillaume qu'il faut être ému quoi.
C'est
ou alors,
parce que le whisky est sur Air France.
D'ailleurs c'est vexant pour nous parce que vous n'êtes jamais ému avec
mais
nous
non,
là.
Mais pas du tout. C'est parce qu'effectivement il y a que Guillaume qui a trouvé la réponse.
J'adore qu'on bafouille. Allons-y.
C'est parce que ce belle voix, vous avez effectivement, mais c'est vous alors qui me faites bafouiller.
Oui, parce que j'ai une belle voix.
Bon, on en parlera avec votre femme. Donc belle voix est servie en effet sur Air France, c'est le seul whisky servi en classe affaires et première classe de sur la compagnie Air France jusqu'à fin 2021. Dépêchez-vous, il vous reste 23 mois pour le goûter. Bon, racontez-nous alors, racontez-nous tout. Belle voix, Bienheureux, vous commencez par où?
Par les Bienheureux. Les Bienheureux, c'est une aventure, une société créée par deux entrepreneurs français, Alexandre Thirèche et Jean Mouex, une aventure qui a commencé il y a 5 ans.
Alors, pardon, mais on va peut-être resituer quand même qui sont Alexandre Thirèche et Jean Mouex, parce que pour d'accord. Nous, c'est une évidence.
Alexandre Thirèche, c'est un ancien cadre de Pernod Ricard qui s'occupait en fait de redresser les affaires en difficulté pour Pernod Ricard, qui s'est notamment occupé de lancer la marque Havana Club à Cuba il y a une vingtaine d'années. Donc tout le début de l'aventure, Morito et Bandas Havana et Jean Mouex. Jean Mouex, il descend de la famille Mouex, une famille connue à Bordeaux.
Grande famille de négociants.
Négociants dans le vin, etc.
Duclos, le domaine Pétrus à Pomerol.
Tout à fait. Et voilà, donc c'est deux entrepreneurs qui ont créé ce projet parce qu'ils sont persuadés que la France peut encore créer de belles aventures entrepreneuriales, qu'on peut encore entreprendre en France et réussir. Et leur première idée, patriote évidemment, c'était de créer un whisky français. Vous savez que les Français sont les premiers consommateurs de whisky au monde. On boit plus de 150 millions de bouteilles de whisky en France tous les ans.
Avec beaucoup de modération, évidemment.
150 millions de bouteilles. Enfin, on est quand même nombreux, il y a beaucoup de touristes.
C'est pas nous, c'est les touristes.
Ouais.
Et l'idée de départ, c'était de dire que la France a tout pour faire un whisky fantastique et faire un des meilleurs whiskies du monde bientôt, puisqu'on a des céréales, incroyables, on a de l'orge, on a un savoir-faire de distillerie partout en France, des gens qui distillaient des fruits, des gens qui faisaient du cognac, de l'armagnac, donc partout on savait distiller.
Qui en font encore.
Et qui en font encore. Et on a un savoir-faire d'assemblage, puisque ça nous vient évidemment du vin, nous, notre équipe, mais on a un savoir-faire d'assemblage au global en France. On a les plus belles tonnelleries françaises aussi, donc on a un savoir-faire sur la tonnellerie incroyable.
Philippe Orbach.
Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant?
Mais en fait, on faisait du whisky, je crois qu'il y a des traces on remonte sur le whisky il y a plus de 2 siècles, sauf qu'on a arrêté de faire du whisky pour garder les céréales, pour nourrir la population.
C'est ça. C'était la raison qu'on peut imaginer en tout cas.
À l'époque, exactement, en tout cas historique.
Et alors ce whisky Bellevoix, il paraît que Emmanuel et Brigitte M à l'Élysée en sont très très friands. Il est servi à l'Élysée votre whisky.
Oui, pour la petite histoire, on a découvert que à la fin des repas, quand un diplomate, un roi, un grand de son monde vient dîner à l'Élysée, donc il mange des plats préparés par un chef français, il boit des vins.
Guillaume Gomez, qu'on salue. Ouais.
Guillaume Gomez, exactement.
Un garçon formidable, marathonien.
Ils boivent des vins français, des vins magnifiques. Mais par contre, à la fin, on leur servait un whisky écossais. Ce qui mais nous pourquoi, a
pas, pourquoi pas servir un cognac ou un armagnac? Je pense
qu'ils servent aussi un cognac, un armagnac.
Oui, mais quand les gens voulaient un whisky, le whisky qu'on leur proposait jusqu'à présent était un whisky français.
C'est ça. Donc on leur a écrit une lettre manuscrite à l'ensemble, etc. Ils ont trouvé le projet sympathique, ils ont voulu nous rencontrer. Puis l'aventure a commencé
Vous étiez référencés. Donc maintenant, en France, il y a deux choses. Il y a le panda du zoo de Beauval et il y a le whisky français Bellevoix. C'est quand même deux stars, quoi.
C'est ça. Connu jusqu'en Asie, effectivement, comme le panda du zoo de Beauval. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ce parallèle étrange.
Enchaînez.
On va enchaîner. Alors, ce whisky, il n'est pas seulement apprécié à l'Elysée et sur la première classe d'Air France. Heureusement, le commun des mortels peut l'apprécier aussi. Où est-ce qu'on peut le trouver? À quel prix?
Alors, nos whiskies sont principalement distribués en France chez des cavistes indépendants. Donc on a entre 1000 et 1200 cavistes qui proposent nos produits. Donc c'est un travail qui est fait avec des agents commerciaux multicartes qui ont du champagne, des vins et qui ont notre carte de spiritueux. Et puis on peut le trouver dans les bons bars à cocktails, les jolies brasseries, quelques tables étoilées et quelques palaces de vin.
Ça vaut combien une bouteille de Bellevoix?
Alors on a aujourd'hui 5 éditions, on a bleu, blanc, rouge, noir et prune le dernier. Et c'est simple, 39, 49, 59, 69.
On comprend encore. Et l'actualité, Guillaume, cette année,
c'est un grain, c'est un assemblage, c'est un malt, c'est quoi?
Alors, ce sont trois single malts qui sont assemblés. Voilà, la spécificité de Bellevoix, c'est ça.
Donc, ce n'est pas un single malt, c'est un malt, un pur malt.
Exactement.
Ouais. Single, c'est une seule distillerie.
Exactement. Et là, ce sont trois distilleries qu'on assemble. Une distillerie qui est dans le Nord, une en Alsace et une en Charente.
D'accord. Et l'actualité cette année pour 2020, il y a des projets français, internationaux, Guillaume, parce que ça bouge chez vous.
Plein de projets chez les Bienheureux, des projets sur des références. Donc il y a une nouvelle référence de Bellevoix, je vous ai dit, le Bellevoix Prune, qui vient de sortir juste à l'instant. Des nouveaux projets aussi sur des produits très premium. Et des nouveaux, des petits coffrets de fin d'année avec sur nos rums. Bref, on a plein de choses.
Pourquoi Prune?
Et en fait, la prune, donc on fait un vieillissement dans des prunes qui sont des eaux de vie de prune de Couëtch et de prune Dante. Ça, c'est une vraie spécificité française, c'est qu'on a cette richesse aussi d'avoir ces deux types de prunes qui sont très différentes et complémentaires. Et en fait, on a fait cet essai avec un vieillissement dans une barrique déjà pour commencer. Et on s'est aperçu que ça fait un produit unique, incroyable, puisque évidemment, cette prune, elle marque assez fortement. Donc on fait un élevage final de 2 mois. Mais ça donne de la céréale et du fruit. Ouais. Et ça, c'est unique.
Le paradis. Il y a un site internet, peut-être, pour l'enseignement. Comment ça s'écrit Bellevoix? Parce que c'est joli à la voix.
Effectivement, il y a un site internet, donc www.bellevoix.fr. Bellevoix, c'est BELLEVOYE.fr.
Merci beaucoup, Guillaume. Merci également, Hélène. Invino, Studio Radio, retrouve à présent Philippe Forbrac, le président de la sommellerie française. Et on parle aujourd'hui de Bordeaux. Côte de Franc, aucun rapport avec Clovis?
Si, un rapport avec Clovis, c'est parce qu'après la bataille de Vouillé, en 507, Clovis, premier roi des Francs, bâtit Alaric II, roi des Visigoths, et s'empara de l'Aquitaine, mesdames et messieurs, bien avant les Anglais, mon cher David. Oui. Et le lieu où se fixa alors, d'ailleurs, le détachement de l'armée franque.
Est-ce que le Visigoth, le symbole, était le coq? Ben non,
vous allez le laisser avancer.
Non, c'était dans la suite du salon de l'agriculture.
Oui, c'est ça, oui.
En
tout cas, le lieu historique dans lequel se fixa le détachement de l'armée franque fut appelé en latin ad francos, soit en français au franc, devenu plus tard franc. Et c'est aujourd'hui le nom d'une appellation, effectivement. C'est la plus petite appellation, d'ailleurs, dans les côtes de Bordeaux, parce que c'est qu'on a regroupé les côtes de Blaye, non pas les côtes de Bourg comme vous les jouez un peu séparément, mais d'autres côtes de Castillon et autres, sous l'appellation côte de Bordeaux. C'est la plus petite en volume et en surface. Et elle produit, et c'est la seule à produire, à la fois des vins rouges, c'est assez classique. On est sur la rive droite de la Dordogne, à proximité de Saint-Émilion, pour faire simple. Et on y produit des rouges à base de Merlot, pour l'essentiel, avec du Cabernet Franc en complément du Cabernet Sauvignon. Ça donne des rouges assez structurés,
charpentés.
Un tantinet peut-être rustique quand ils sont jeunes, mais qui évoluent bien avec le temps. Et surtout, j'ai à dire presque dans l'originalité, ils font à la fois des vins blancs secs et des vins blancs liquoreux. C'est une appellation qui a droit effectivement à ces trois facettes de vin. Et du coup, en blanc, en cépage blanc, le cépage principal, alors que c'est le Sauvignon qui est devenu un peu hégémonique dans le Bordelais aujourd'hui, eh bien c'est le Sémillon qui est le cépage principal. Parce qu'effectivement, pour faire des vins plutôt liquoreux, c'est le grand cépage. On le retrouve aussi en grande majorité, par exemple, dans l'appellation Sauterne, au Barsac. Et donc, ça donne des vins qui sont plutôt amples, assez puissant, relativement généreux pour les Blancs, hein, aussi bien que pour les Rouges finalement, on peut presque les décrire de la même façon. Après, en évolution aromatique, les choses sont bien entendu très différentes. Les Rouges sont plutôt sur le côté fruits noirs, fruits rouges un peu denses, voilà, légèrement poivrés, souvent levés en fût de chêne, parce que c'est un peu la tendance, même si elle a tendance un peu à diminuer cette présence du fût de chêne dans les Rouges de Bordeaux, et c'est plutôt une bonne chose, laisser parler le raisin, le vin lui-même, et non pas simplement l'élevage. Mais en accompagnement d'élevage, justement, pour le côté complexité, pour l'éducation, j'allais dire, à prendre un peu l'air pour du vin, le bois est très intéressant. Lorsque le côté boisé, justement, vanillé, épicé, n'est pas trop marqué. Et ça donne, du coup, des vins qui se gardent particulièrement bien.
C'était quoi, 5 ans, 10 ans, Philippe ?
Oui, facilement 5 ans, davantage entre 5 et 10 ans, allez, d'accord, on va dire ça. Ce qui est déjà intéressant parce que
pas
ce
si sont mal.
Oui, et puis ce sont des vins accessibles en prix.
Alors combien ça coûte aussi? Parce qu'on se méfie, parce que quand on est meilleur sommelier du monde, on doit gagner plein de sous. Hein.
On a la chance de goûter des vins à tous les prix quand on est meilleur sommelier du monde, et souvent d'être même payé pour les goûter, donc c'est plutôt sympathique. Ça fait vraiment rougir mes amis en disant comment en plus tu gagnes ta vie en faisant goûter des vins.
C'est incroyable. Ben oui, c'est et dans fou, le whisky, hein. On vous paye, vous gagnez. Vous êtes payé, bien sûr. Pas assez, mais vous êtes bien payé quand même. Hein. Deux, trois vignerons peut-être.
Oui, et surtout pour dire que ce sont des vins. C'est la question du prix, hein, entre une quinzaine d'euros, quelques cuvées au-delà de 20 euros, mais franchement, ce sont des vins quand même très accessibles.
Les vignerons ?
Alors, le château La Prade, par exemple, qui appartient à la famille Tiempon, de Vieux Château Sertan, Le Pin, etc., pour moi, qui sont des grands domaines. Et également, d'ailleurs, ils ont également Puguerot, ou encore les Charme Godard en blanc, c'est juste une petite merveille. Et puis, le château Marceau également, dont j'ai vraiment un faible pour le rouge. La Claverie, ou château La Croix-Blanche, font aussi partie de ce qu'il faut savoir marquer.
Et température de service, Philippe, pour les blancs, les rouges,
les rouges, 16 degrés, franchement, c'est là qu'ils arrivent vraiment à leur belle expression. Quant au blanc, le sémillon, ça donne des vins assez gras, assez riches. Donc, il ne faut pas hésiter à diminuer légèrement la température par rapport aux vins blancs traditionnels, notamment quand ils sont jeunes. Moi, j'aime bien autour de 8 degrés. Par contre, sur les moelleux, oui, on peut monter légèrement autour de 10 degrés parce que l'intensité gustative est à son optimum à cette température-là, par exemple.
Merci beaucoup, Philippe Arbouac. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec une bonne recette de saison. Évidemment, les bon vin pour l'accompagner.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour de Invino Sud Radio avec Romain Boiroux, le chef du restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine. Bonjour Romain.
Bonjour tout
le monde. Alors aujourd'hui, ça y est, c'est parti, vous nous parlez de truffes.
Oui, la truffe noire. Donc je vais vous présenter une petite truffe. En fait, c'est un souvenir, mon apprentissage. J'ai découvert la truffe avec Anne-Sophie Pic.
Oh là là, c'est la seule femme qui a eu 3 étoiles, non ?
C'est dur, ça, votre
c'est
vie.
C'est la seule.
Hein.
Ah, ouais. Très dur, ma vie. Très, 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 très dur.
Et alors, Anne-Sophie Pic, comme initiatrice, elle est comment ?
Très bien.
Et côté ouais, truffe, ah, elle est comment alors ?
Ah, très.
Ouais. Ah ouais, vous en gardez un souvenir ému.
Oui, bien sûr.
Elle est très odorante, elle sent très fort, c'est normal ?
Oui, on parle de la truffe, on parle plus d'Anne-Sophie Pic.
Non, c'est sûr que. Il n'y a pas encore de douche pour truffe. Mais bon.
Non. Donc, Anne-Sophie Pic, je faisais du beurre aromatisé à la truffe. Un petit beurre salé, juste. On mettait pommade, on mettait la truffe dedans, on l'infusait 3 jours. Et c'était vraiment un très, très bon beurre. Vraiment tout simple. Très, très bien. Et donc, quand je suis arrivé ici, j'ai dit, il me faut un producteur de truffes. Je voulais la mettre à la carte. Donc, je l'ai mise à la carte. Et je viens de Charente-Maritime et j'ai trouvé un producteur de Charente-Maritime.
Ah oui.
Et non
ah
du
oui.
Périgord.
Ah oui. Ah oui, tiens.
Ouais. Dans un petit village, la Brousse, en Charente-Maritime.
Et il les chasse comment, là ? Il a un petit cochon, il a un chien.
Il a un petit cochon et un chien. Il ah a oui. les deux, oui.
Il a les deux.
Il a 2 hectares. Donc, c'était une mauvaise année cette année.
Guillaume, vous aimez la truffe, hein, vous, ah, le directeur commercial de cette belle marque de whisky, la belle voix, vous adorez la truffe, toi ?
Oui, alors par contre, des truffes de cette taille-là, j'en avais jamais vu.
Mais... Ah non, c'est vrai. Non, vous aimez les bonnes choses parce que vous avez des vignerons et puis des ostréiculteurs, notre famille. Hein. C'est beau,
exactement.
Ça.
Exactement. Mais j'ai pas de chien truffier à la maison.
On va vous acheter un cochon pour Noël. Alors.
Un petit cochon.
Un petit cochon, oui. Au pire, vous le boufferez, quoi.
Moi, je viens de planter des chênes truffiers, mais je sais pas si ça va donner.
Eh ben, ça fera deux cochons.
Dans 15 ans, dans 15 ans. Donc oui, il se situe à Charente-Maritime, à côté de Saint-Jean-d'Angélion, pour le retrouver tous les lundis soirs. Donc je fais sa petite promo parce que.
Et comment il s'appelle ce monsieur ?
Il s'appelle Giraud.
Giraud, monsieur Giraud, voilà. On vous embrasse.
Ouais.
Alors qu'est-ce que vous lui faites à cette truffe, Romain ?
Alors souvent, moi, j'infuse dans du gras parce que la truffe, ça se développe dans le gras, donc dans du mascarpone. On fait un petit brie à la truffe, on coupe en deux, on met du mascarpone pour 500 grammes de mascarpone, à peu près 10 grammes de truffe. À la microplane, juste râpé, on ferme, on laisse 3 jours Et après, on déguste.
Et après, vous la servez comment? Enfin, vous faites
une petite tranche avec du pain, tout simplement, avec un bon verre de vin.
Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer, tiens, comme vin, justement, David, oui. Philippe, je vois qu'il réfléchit. David, Hélène, vous en pensez quoi comme,
Alors, moi, je prendrais plutôt des blancs. Avec la truffe, évidemment, ça va dépendre le reste, mais globalement des blancs plutôt gras, assez aromatiques eux-mêmes.
Bourgogne.
Grand Bourgogne, un grand Chardonnay ou un Côte du Rhône du Nord, c'est très très bien avec les truffes parce que parfois, quand ça évolue, la Marsanne et la Roussanne, ça va vers des arômes truffés. Ça peut être très bien.
Et certains chenins, chenins de Loire, par exemple, non?
Pas trop tannique avec
la truffe. Pas trop tannique, d'accord. Non, un peu déjà.
Pas trop tannique.
Il y a des Alsaces.
Plutôt des vieux Bourgognes rouges à ce moment-là.
Il y a des Alsaces blancs qui fonctionnent très bien aussi. Ouais. Mais j'éviterais le Riesling parce que sinon on est vite ton sur ton.
C'est ça.
Mais en revanche, sur certains Sylvaneurs, on peut trouver de très très jolis accords.
Ça marche.
Aussi.
Romain?
Bah moi j'ai dégusté avec un chinon en fait, j'ai redécouvert le chinon, j'ai passé
blanc,
un très
rouge.
Très bon
rouge.
Rouge, d'accord. Ouais, j'ai passé un très bon moment une personne. Mmh. Et donc j'ai redécouvert le chinon et j'ai dégusté ça avec la truffe et j'ai adoré.
Bon, et comme plat la truffe pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? C'est-à-dire que là vous le faites à la cool, on va dire, comme disent les jeunes, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme élément plus élaboré?
Moi j'aime bien, c'est le risotto de coquillettes à la truffe avec un vieux comté.
Ça y est, on a faim. Continuez. Continuez vite.
On fait vraiment comme un risotto mais avec des coquillettes. On met du jambon, de la truffe. Service simple.
Oh là là, je vous aime, Hélène, je vous aime.
Avec un petit bouillon.
Un petit bouillon de légumes.
Ah, pas mal.
Et les coquillettes, alors David Cobol, avec ses coquillettes, qu'est-ce qu'on sert?
C'est toujours le problème, la truffe est un parfum tellement fort qu'il faut rester sur l'accord avec la truffe. La coquillette est plutôt neutre, c'est un support.
Mais c'est beau, la coquillette aussi.
Les pâtes, c'est pareil, donc je resterai aussi sur des blancs ou des rouges pas tanniques.
Bon, très bien, en tout cas, merci beaucoup Romain. On vous retrouve tous les jours dans ce restaurant à Paris, le restaurant Bistro Bar à Vin Nicolas. Et voilà, la truffe, c'est tous les lundis soirs, c'est ça?
Oui, à Saint-Jean-d'Angély, au marché.
D'accord, très bien. Nous irons. David Cobol, qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui là? On parle sucré, on parle salé, on parle bien, de pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Pas de leçon de morale, attention David.
Non, il n'y a aucune leçon de morale. Il y aura peut-être un petit coup de griffe quelque part, mais vers la fin, simplement pour un mésaccord. Et pas un désaccord, mais un mésaccord.
Un mésaccord.
Donc je vais vous parler de trois choses. Libanais, le sucre pour le vin, parce que le sucre est essentiel pour faire du vin. Il n'y a pas de vin sans sucre à la base. Le sucre dans le vin, et ensuite les accords avec les plats sucrés. Donc le sucre pour le vin, le raisin, c'est le fruit le plus sucré et aussi le plus acide par rapport à son volume. Plus vous avez de sucre, plus vous avez de l'alcool, hein, pour simplifier un peu, parce que le sucre il est transformé par les levures qui cassent la sucrose, qui devient autre chose, la fructose et la glucose, et ensuite on transforme ça par les levures en alcool et en CO2. Donc le sucre est essentiel pour le vin, premier point. Deuxième point, le sucre dans le vin. Aujourd'hui, la mode est anti-sucre. Or, c'est paradoxal parce que les premiers grands vins historiques, parce que c'était les seuls qui se conservaient, étaient des vins sucrés. Des Tokaj d'Hongrie, les Trockenbeerenhäuslese d'Allemagne, le vin de Constance, le Commanderia de Chypre, tous ces vins étaient sucrés parce qu'ils pouvaient tenir dans le temps, le sucre étant un agent conservateur formidable avant l'arrivée de la bouteille industrielle. Depuis, le sucre est tombé un peu de mode, et particulièrement maintenant, j'en veux pour preuve la diminution assez radicale du dosage en sucre dans les champagnes, où la mode est au extra brut, voire au brut zéro, ce qui pour moi n'est pas toujours favorable à la conservation des champagnes, mais bon, tout le monde n'aime pas les vieux champagnes, donc pourquoi pas.
Oui, chacun son goût aussi, David.
Chacun son goût. Mais il faut aussi voir que globalement, les vins sucrés, toutes les vins sucrés, que ce soit les sauternes, les bonzo, les quarts de chaume, ça se vend de moins en moins. Ouais. Et pareil pour
c'est bon, mais personne n'en boit.
Alors, c'est très bon, mais personne n'en boit. Donc, le problème qui arrive, c'est que qu'est-ce qu'on peut accorder avec un plat sucré? Parce que le problème avec le plat, c'est que le sucre étant une saveur dominante, si vous n'avez pas de sucre en face, le vin est écrasé. Ce qui ressort d'un vin sec, quand vous le buvez avec un plat sucré, ce n'est que l'acide. Tout le fruit disparaît, parce que le sucre écrase le fruit, il ne reste que l'acide. Donc le vin paraît beaucoup plus maigre, beaucoup plus ordinaire, plus plat, si vous voulez, qu'auparavant.
Ce que vous appelez un plat sucré, David, c'est quoi?
C'est un
lapin au pruneau?
Je parle dessert.
Oui, mais ça m'a été apprécié, vous avez raison, Hélène, parce qu'un lapin au pruneau...
Quand il y a un peu de sucre comme ça à côté, en accompagnement, tout va bien, parce que vous avez autre chose, vous avez du salé. Hein, donc ouais. Là, on parle de sucré salé, ça peut
là,
fonctionner
avec
un
chef, Romain, David explique que c'est de moins en moins à la mode, le sucré. Vous, dans votre cuisine, dans vos plats, vos clients, vous ressentez également qu'il y a moins de desserts vendus ou...
On enlève le sucre, en fait, dans le
dessert. Ah, vous enlevez le sucre
ouais, on allège. Ah,
carrément. On allège beaucoup. Oui.
Et ouais. C'est la seule manière d'élargir un peu le spectre de l'accord. Parce que la règle, c'est très simple. Il faut autant voir plus de sucre dans le vin qu'avec le plat pour que le vin survive au-dessus du plat. Et c'est pour ça que j'étais un peu choqué de recevoir l'autre jour de l'ensemble des Crémants de Bourgogne un petit pamphlet qui était joliment fait avec du sucré salé. Et il proposait 4 plats salés et 4 plats sucrés. Et je m'attendais à trouver que les Crémants de Bourgogne qu'ils allaient proposer avec la partie sucrée étaient des demi-secs ou des doux. Eh bien non, j'étais surpris de voir 2 bruts et 2 extra-bruts, c'est-à-dire des vins très très peu sucrés. Alors pourquoi cette pratique? Parce que je trouve que c'est un non-sens. Je pense que les gens qui étaient responsables de cette plaquette n'ont pas testé les accords parce que ça ne peut pas marcher. Eh bien, il y a une explication historique qui tient debout, c'est que jusqu'aux années 50 en France, on consommait plus de champagne demi-sec et doux que de brut. L'extra brut n'existait pas, sauf un tout petit peu pour le marché anglais à l'époque. Et du coup, cette habitude de servir une bulle, un mousseux quel qu'il soit du champagne ou d'ailleurs, hein, tous les bulles sont des mousseux, de servir ça sur le dessert, ça date de cette époque-là. Le style du vin s'est modifié, est devenu de plus en plus sec. Et cette pratique de servir, on le voit à la campagne, dans les marais, etc., on sert toujours un champagne brut ou un crémant brut sur un dessert. Ça ne fonctionne pas, mais cette habitude a une explication historique. Le problème, c'est que l'habitude est restée et on n'a pas adapté au style du vin. Voilà. Donc, petit coup de griffe pour les gens qui ne réfléchissent pas à la réalité des accords.
Mais c'est très difficile de les faire changer d'avis. Le nombre de festivités auxquelles je participe avec grand plaisir, avec plein de gens que j'aime, et qui, enfin, et où ils sortent des bouteilles de bulles au dessert, et je me dis non, je veux pas être là.
On a eu ça récemment avec quel est ce truc à la frangipane qu'on sert en janvier.
La galette des rois.
La galette des rois. Et les gens servent un brut ou un extra brut.
La King's galette en anglais.
The King's cake.
C'est ça.
Eh bien, ça ne marche pas du tout. Il faut sortir un demi-sec, un doux ou un vin liquoreux.
Est-ce que les jeunes comprennent plus ça ou c'est cette aberration, c'est juste l'appel des vieux ou...
Je pense que les jeunes ne sont pas cantonnés dans les habitudes ancestrales. Ils sont plus aventureux, ils sont plus prêts à essayer des choses.
Alors, y a quelque chose qui marche très bien, en toute petite quantité avec modération, mais je
le dis
devant Guillaume Mastellotto.
Spiritueux.
Un tout petit peu de rhum, un tout petit peu de whisky, ça marche très bien. On parle des galettes des rois à la frangipane, avec un
galette des rois whisky quand même.
Et ben ça marche très bien.
Oui,
avec 200
pourquoi
centilitres de
mais pourquoi
whisky,
faut comprendre pourquoi. Parce que vous avez la force du goût liée à l'alcool. Donc c'est la puissance avec
c'est
la puissance sucrant. Le sucre est vraiment un saveur très très puissant. Il va écraser tout le reste, mais un spiritueux peut résister très bien.
Guillaume, vous en pensez quoi? Est-ce que déjà un repas au whisky à 100% c'est jouable? Et bien après on revient sur la galette au whisky.
Oui, c'est jouable. Sachant que par exemple nous dans la gamme, c'est vrai qu'on a un whisky qui est élevé en fût de chêne classique. On a un whisky au sauterne, finition au sauterne, qui là pourrait effectivement
oui, c'est ça,
dans
oui.
ce cas-là,
oui,
ça
s'accorder un peu.
Exactement. Ça arrondit, ça a des notes exotiques, un peu plus enveloppante, un peu plus charmeuse. Donc forcément, ça pourrait se faire avec un dessert. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on a un partenaire qui propose ce whisky-là avec des cookies. Bah, les Américains mangent des cookies, plein de choses.
Ouais.
Mais il a trouvé
c'est
cet accord.
C'est pour ça qu'ils sont en général assez larges.
Avec le Belvoir blanc. Puis après, on a un finition Saint-Émilion, donc plus épicé, donc qui pourrait aller avec un plat effectivement un peu plus
épicé.
Un peu plus épicé. Et puis on a Belvoir noir qui est tourbé. Et là, la tourbe, les whiskies tourbés, vous savez, un peu fumés, un peu iodés, ça va très bien avec des poissons fumés.
Est-ce que vous préconisez la dilution avec une eau pure pour pouvoir goûter le... Parce que boire plusieurs whiskies à la suite, c'est pas facile.
Ah ben notre maître assembleur, quand il déguste, effectivement,
c'est
il
nécessairement
a un échantillon de 40, évidemment...
D'abord, il sent.
Exactement. Après, honnêtement, certains consommateurs diluent, entre guillemets, avec de l'eau, donc la plus pure possible, c'est possible. Il y en a qui les rafraîchissent, vous savez, avec des pierres qu'on peut mettre...
Oui, c'est ça.
Ça ne dilue pas, vous n'avez pas l'effet de dilution.
Oui.
Mais vous avez,
j'ai ça à la maison, c'est très
fraîcheur.
Bien.
Justement.
Exactement.
Bien, ben voilà, donc on sait tout maintenant sur les galettes, sur le sucré, sur le salé, sur le whisky. Merci David, merci également à vous Hélène, Romain et Philippe. Merci également à Angeline et Charlotte qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro. d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.